Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Ça y est, c'est fait et c'est un événement historique de portée mondiale. L'interruption volontaire de grossesse a été inscrite dans la Constitution française par les députés et sénateurs réunis en congrès à Versailles. Et la France est le premier pays du monde à le faire. Aujourd'hui, on vous raconte le long chemin parlementaire pour y parvenir, un chemin qui avait démarré en 2022 après la décision de la Cour suprême américaine de révoquer le droit fédéral à l'avortement aux États-Unis. Alors, que dit exactement cette modification de la Constitution française? Qu'est-ce que ça change concrètement pour les droits des femmes et l'accès à l'IVG? Je reçois aujourd'hui Solène Cordier, journaliste au service Société du Monde, pour en parler. Bonjour Solène.
Bonjour Jean-Guillaume.
Alors, première question, je disais à l'instant que la France était le premier pays au monde à inscrire l'IVG dans sa loi fondamentale. Pourquoi est-ce que c'est si important? En quoi c'est historique?
Alors désormais, ce que ça signifie très concrètement, depuis le vote hier au Congrès réuni à Versailles de cette constitutionnalisation, c'est que l'avortement apparaît dans notre texte fondateur du système juridique français, la Constitution française. Et ce qui apparaît très clairement avec l'adoption de ce projet de loi constitutionnelle, c'est la liberté garantie des femmes à recourir à une interruption volontaire de grossesse, qui est désormais érigée en liberté constitutionnelle au même titre, par exemple, que la liberté d'expression, de conscience ou d'association. Donc, c'est évidemment un motif de fierté très fort pour celles et ceux qui sont attachés au droit à l'avortement et à la possibilité pour les femmes de décider ou non d'avoir un enfant. Enfin, c'est un signal très fort envoyé au reste du monde, dans un contexte où, dans de nombreux pays, y compris sur le sol européen, et là je pense à l'Italie, à la Pologne, à la Hongrie, on assiste ces dernières années à des reculs, des régressions sur les droits des femmes, et en particulier ce qui touche au droit à l'avortement.
Alors Solène, pour rappel, en France, le droit à l'avortement, il est encadré par la loi dite Veil de 1975 et on connaît toutes et tous le récit de la pugnacité avec laquelle les militantes féministes et Simone Veil s'étaient battues pour que cette loi existe à l'époque.
Je pense que la situation actuellement est une situation injuste et mauvaise. Elle est injuste pour les femmes parce qu'en définitive, c'est surtout contre les plus démunis, les plus défavorisés que la loi pénale actuellement est rigoureuse.
Cette bataille pour la légalisation de l'avortement, elle a beaucoup été évoquée d'ailleurs lors des débats parlementaires. Qu'est-ce qui change concrètement aujourd'hui par rapport à cette loi de 1975? Qu'est-ce qui est inscrit dans la Constitution exactement?
Ce qui va être inscrit désormais dans l'article 34 de la Constitution, c'est « La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ». Il faut bien comprendre que la constitutionnalisation, en tant que telle, n'a aucun effet sur la manière dont la loi encadre en France l'accès à l'IVG, les délais pour y recourir, les modalités de remboursement, etc. Cela ne change pas les termes de la loi actuelle sur l'avortement, dont le point de départ est, en effet, la loi Veil votée en 1975. Cela crée simplement un niveau de protection supplémentaire, dans la mesure où on peut modifier la loi, et c'est d'ailleurs la fonction des parlementaires de modifier les lois qui encadrent l'exercice de telle ou telle activité, et notamment l'IVG en France. Récemment, la dernière modification, c'était l'allongement des délais de recours à l'IVG, et demain, il peut y avoir d'autres modifications qui interviennent. La constitutionnalisation ne change rien à ça. En revanche, ce que ça change, c'est que si un jour une majorité ou des parlementaires voulaient restreindre complètement l'accès à l'IVG, le droit à l'IVG, cela signifierait modifier la Constitution. Et là, c'est un processus qui est beaucoup plus complexe.
On ne peut pas le faire avec une majorité simple.
Absolument. Il faut, comme on l'a vu lors de cette modification constitutionnelle-là, qui est donc une navette parlementaire, un vote conforme à l'Assemblée nationale et au Sénat, et ensuite une réunion du Congrès qui vote cette modification constitutionnelle.
Solène, l'inscription de ces quelques mots dans la Constitution que tu viens de nous expliquer, elle est issue d'un long processus parlementaire qui a commencé à l'automne 2022. Est-ce que tu peux nous le raconter? Pourquoi l'automne 2022?
Alors effectivement, c'est en automne 2022 qu'il y a une première proposition de loi qui est arrivée à l'Assemblée nationale. Mais alors, le point de départ, on peut plutôt le dater à l'été 2022 et à l'onde de choc dans le monde entier qui a été provoquée par la révocation aux États-Unis par la Cour suprême américaine du droit fédéral à l'avortement. Ça, c'était en juin 2022.
Et ce sont désormais les États américains qui ont le pouvoir de se prononcer pour ou contre l'avortement. Et certains ont dès hier banni l'IVG. C'est le cas du Missouri, de la Géorgie ou du Dakota du Nord, où les cliniques ont définitivement fermé leurs portes. Toutes les femmes vivant dans ces États ne peuvent désormais plus avoir accès librement à l'avortement.
À la suite de ça, les militantes féministes en France se sont dit « il y a un danger » parce que si même dans une démocratie comme les États-Unis, le droit à l'avortement qui semblait être un droit indétrônable finalement est supprimé, il faut qu'on agisse en France pour protéger davantage cette possibilité pour les femmes d'interrompre une grossesse non désirée.
Alors comment est-ce qu'elles s'y prennent ?
Alors les militantes féministes depuis longtemps sont favorables à la constitutionnalisation du droit à l'IVG en France. Donc ce qu'elles font, c'est qu'elles vont voir les responsables politiques et elles essayent de promouvoir cette idée en leur disant, voilà, il faut, pour protéger ce droit, l'inscrire dans la Constitution. Ça fonctionne parce qu'il y a une forme de consensus politique à ce moment-là qui se crée autour de ce sujet-là. En tout cas, consensus au sein de la majorité et à la gauche de l'Assemblée nationale. Et à l'automne 2022, un premier texte qui propose une constitutionnalisation du droit à l'avortement est adopté à l'Assemblée nationale. Il est porté par les rangs LFI, par Mathilde Panot, qui est directrice du groupe à l'Assemblée nationale.
Alors, c'est le premier texte adopté, mais Solène, on peut préciser qu'il y a eu d'autres initiatives parlementaires qui se montaient en parallèle, notamment venant de la sénatrice écologiste Mélanie Vogel ou encore de la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, Aurore Berger. Bref, la proposition de loi de Mathilde Panot est adoptée à l'Assemblée et donc le texte part au Sénat, c'est ça ?
Absolument. Et ça arrive au Sénat en 2023, en février. Et là, il y a vraiment un gros suspense parce que le Sénat, c'est une assemblée à majorité de droite. Et donc, on sait que ces gens-là ne sont pas favorables, a priori, à toute évolution concernant la loi Veil, concernant ce qui touche à l'avortement. Et finalement, surprise générale, la proposition de loi issue des rangs LFI est adoptée au Sénat avec une modification substantielle parce que là, on ne parle plus de droit à l'IVG, on parle de liberté des femmes à accéder à l'IVG. C'est donc un texte de compromis, mais c'est déjà une très grande victoire en février 2023 que cette adoption dans les deux chambres. À la suite de ça, quelques semaines plus tard, le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, Emmanuel Macron annonce son intention de porter un projet de loi constitutionnelle, donc de ne plus passer par une proposition de loi, donc initiative parlementaire, mais par un projet de loi qui est à l'initiative du gouvernement, pour constitutionnaliser le droit à l'avortement. Et c'est sur ce projet de loi constitutionnel que se sont accordés hier, lors du Congrès, sénateurs et députés.
Et alors, Solène, c'est intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de petits changements sémantiques autour de cette constitutionnalisation. On est passé de droit à une liberté garantie. C'est quoi les nuances entre ces différentes expressions ?
Effectivement, il y a eu un cheminement sur la formulation définitive du texte qui sera inscrit dans la Constitution. Au départ, les parlementaires de gauche étaient favorables à ce que ce soit un droit à l'IVG qui soit constitutionnalisé parce que ça leur paraissait et sans doute ça l'est plus fort de garantir un droit que de garantir une liberté des femmes à accéder à l'IVG.
C'est quoi la nuance ?
Alors, garantir un droit, c'est une formulation qui serait plus protectrice selon les partisans de cette formulation et c'est assez exact parce que ce que ça voudrait dire, c'est que le droit à l'IVG est garanti par la Constitution. Et donc, ça sous-entend qu'il y ait l'organisation d'un système de soins qui permettrait de prendre en charge les femmes qui auraient ce droit à avorter. La liberté des femmes à y recourir, c'est une notion qui est peut-être, qui est plus une notion de compromis parce que ça veut dire elles ont le droit d'avorter en France, mais on ne garantit pas nécessairement les conditions dans lesquelles cet avortement sera possible.
D'où cette expression aussi de compromis lors du deuxième passage au Sénat. C'est plus un droit, c'est plus une liberté, c'est une liberté garantie. On remet un peu de certitude autour du terme liberté.
Effectivement, en fait, c'était une avancée du projet de loi constitutionnelle par rapport à la proposition de loi issue du Sénat. C'était de se dire, bon, les sénateurs ont été d'accord pour voter la liberté des femmes. On va parler de liberté garantie pour renforcer un petit peu ce côté-là, cette possibilité pour les femmes de disposer de leur corps comme elles le souhaitent.
Et à la fin du processus, c'est cette formulation-là, liberté garantie, qui l'a emportée.
Oui, et malgré tout, ça a été une formulation, même si c'est une formulation de compromis, qui a été une victoire très forte, à la fois pour les collectifs féministes, qui sont ceux qui ont poussé à cette constitutionnalisation, mais également pour les parlementaires qui ont été à la manœuvre, et je pense notamment au Sénat, Mélanie Vogel, écologiste, qui a mené ce combat, Laurence Rossignol également du côté du groupe socialiste. Malgré des débats assez courts finalement au Sénat, ce qui était assez fort à l'issue, c'est les applaudissements très nourris et l'émotion qu'on ressentait après le vote de ce texte.
Il y a un chemin que la France vient d'entamer, un chemin qui va dans l'autre sens de celui qui est malheureusement entamé par un certain nombre de pays qui font régresser les droits, mais qu'il existe un chemin de progrès, un chemin d'espoir, et que ce chemin est possible quand la société se mobilise.
Ok Solène, tu nous as raconté tout ce processus de constitutionnalisation et comment ce sera désormais extrêmement compliqué pour une nouvelle majorité qui pourrait changer à l'extrême droite de remettre en cause donc cette liberté garantie. Il faut dire que les militantes féministes estimaient ça nécessaire car il y a de plus en plus d'attaques venant de groupes, d'organisations politiques ou médiatiques contre ce droit à l'IVG.
Oui, en effet, en fait, ce que constatent les collectifs féministes, les militantes féministes sur le sol européen, c'est vraiment des attaques ciblées de mouvements pro-vie ou anti-choix, enfin, on les appelle de différentes manières. Et ces attaques, elles existent également en France. Ça se traduit notamment par des attaques physiques, même contre les permanences du planning familial, qui est l'association qui permet justement aux femmes d'avoir une information sur l'IVG, et également une désinformation assez forte qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, sur Internet, et qui conduit des femmes qui sont à la recherche d'informations à des sites qui sont anti-IVG.
Sachant, Solène, pour conclure cet épisode, qu'il n'y a pas que ces attaques de groupes politiques, il y a d'autres freins aujourd'hui dans notre pays qui empêchent ou qui freinent l'accès des femmes à l'IVG.
En effet, depuis plusieurs années en France, on constate une réduction de l'offre d'accompagnement des femmes. C'est lié notamment aux difficultés de l'hôpital public, qui entraîne des fermetures de maternité et donc de centres IVG. Selon les collectifs féministes, il y a 130 centres IVG qui ont fermé au cours des 10 dernières années. Donc ça, c'est un frein important. Ça entraîne des difficultés de parcours pour les femmes qui souhaitent avorter. Un certain nombre d'entre elles doivent changer de département, faire des dizaines de kilomètres pour accéder à ce droit. Et puis, il y a aussi la question de la double clause de conscience, qui est une question importante. Les soignants qui refusent d'avorter les femmes et donc qui entraînent aussi une difficulté pour ces dernières d'être prises en charge. Tout ça sont effectivement des freins qui existent et qui montrent que malgré cette constitutionnalisation, il existe encore des raisons de se battre pour défendre ce droit des femmes à avorter.
Merci Solène.
Merci.
Cet épisode a été produit par Adélaïde Tenaglia et Cyrielle Bedu et réalisé par Thomas Zeng. Vous pouvez retrouver tous les articles de Solène Cordier pour en savoir plus sur notre site dans la rubrique Société. Et avant de nous quitter, un petit mot pour vous rappeler que nous existons grâce à votre soutien. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de cet épisode ou à vous rendre sur abopodcast.lemonde.fr pour profiter de notre offre spéciale réservée aux auditeurs et auditrices de l'Heure du Monde. Un mois d'accès gratuit et sans engagement à l'ensemble de nos contenus. Merci de votre fidélité et à demain.